La vallée de l'Aune en transition, épisode 3, quelle vallée pour demain ? Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet BRIC, un projet européen qui s'intéresse à notre façon de vivre avec le fleuve. Dans les épisodes précédents, nous avons vu que l'Aune a permis le développement de toute sa vallée à travers l'histoire et qu'il traverse des épisodes de crue auxquels il est important de se préparer. À un niveau plus global, de nouveaux usages du fleuve peuvent être envisagés pour en faire un moteur de transition écologique. En effet, le contexte de changement climatique nous encourage à questionner nos modes de vie et de consommation. À partir de là, l'Aune est peut-être aussi un levier pour la transition du territoire, pour y inventer des manières nouvelles ou en réhabiliter des anciennes, de produire de l'énergie, de transporter des biens, etc. En même temps, les travaux universitaires mettent en avant que la capacité des communautés locales à faire face, à rebondir, à s'adapter quand arrive une catastrophe, comme une inondation, est d'autant plus importante que le vecteur de cette catastrophe, en l'occurrence l'Aune, est intégré comme un atout dans la vie du territoire. L'Aune pourrait donc redevenir, dans les prochaines années, un levier pour dynamiser le territoire en contribuant à sa transition. À un premier niveau, l'Aune est un facteur de lien social, qui forge une identité commune encore aujourd'hui. Or, avoir conscience de faire partie d'une communauté humaine, connaître ses voisins, être capable de s'entraider, sont parmi les principaux déterminants de la résilience. Nous ne sommes pas toutes et tous égaux face aux inondations. L'âge, la situation familiale, le niveau de revenu sont des facteurs déterminants de la vulnérabilité des personnes. De ces facteurs dépendent les ressources à notre disposition pour s'adapter à l'instant T, mais aussi la rapidité à nous remettre d'un épisode de crue. La solidarité est un ingrédient d'autant plus essentiel de la résilience, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Christian Dubreuil, référent famille au centre social Polissonnance de Châteaulin, nous présente les dynamiques sociales du territoire et fait apparaître l'opportunité d'accueillir de nouveaux habitants pour y développer des projets, renforcer les liens et valoriser l'existant.
Châteaulin fait partie de ces territoires, malheureusement, où il y a beaucoup de retraités. Non, pas malheureusement, mais en fait, c'est un peu vieillissant. On voit les écoles, il y a des fermetures de classe, ça ne se renouvelle pas. Il y a un équipement en forme, mais ce n'est pas là où il y a le vent en poupe, entre guillemets, en termes de la population. Après, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de brassage dans ces territoires-là. Et je pense qu'il y a la matière grise qui arrive aussi. Ben, le confinement va avoir un effet très positif, à mon avis, sur des gens. Là, j'ai eu l'expérience d'un couple de Lyon qui est arrivé sur Châteaulin. Suite au confinement, ils voulaient passer au vert, entre guillemets, et qui arrivent. Et là, c'est, on va dire, c'est des gens très sociologiquement très diplômés qui arrivent. Et ça, c'est suite au confinement. C'est pas le genre de truc, il y a 10 ans, j'aurais pu en parler. C'est vraiment des... Donc, il peut avoir aussi, lié à ce qui a été vécu, des liens. Ça peut développer, on va dire, des choses positives ou des rencontres. Parce qu'il y a quand même un territoire très riche. On a tout pour être heureux ici. Et ce qui est triste, c'est que quelquefois c'est juste le plus simple, c'est-à-dire pouvoir se voir. Et il n'y a pas forcément beaucoup de lieux ouverts en fait, aujourd'hui. Avant, culturellement, il y avait des lieux. Bon, j'ai schématisé, mais je dirais qu'il y a l'église qui rassemble énormément, mais ça crée du lien. Il y avait toute la religion qui crée des événements dans les familles, qui crée du lien. Aujourd'hui, c'est un peu désuet, où les familles sont éclatées, voilà. Et il y avait aussi des grands événements. Châteaulin, par exemple, il y avait en septembre la fête de la moisson et qui regroupait 3 000 personnes. Il y avait des bars tous les 20 mètres. Enfin, c'est, a priori, c'était tous les agriculteurs du territoire qui faisaient la fête de la fin des moissons ici. Quoi, en fait. Enfin, c'était un rendez-vous avec la course de vélo. Et donc, c'est le critérium de Châteaulin était réputé. C'était après le Tour de France. Il y avait des élites qui venaient ici. C'est plutôt vu comme, en plus avec le confinement, vraiment vu un lieu de bucolique où on se promène. Hein, vraiment le côté de promenade. Et puis on a, alors très bizarre, on a une manière d'être sur, quand on se promène le long du halage qui est différente que quand on se promène dans le centre-ville. On se dit bonjour sur le long du halage. Tous les promeneurs le disent et il y a une certaine connivence, on va dire. Il y a un respect d'être là, on respecte le lieu. Bah, c'est un côté un peu hors du temps parce que ça ne vieillit pas en fait, c'est toujours pareil. Et du coup, c'est plutôt, on va dire, pour moi, c'est vraiment un atout.
Ensuite, la reconstitution d'un paysage de bocage, en plus de diminuer l'intensité des inondations, est un facteur de préservation de la biodiversité et offre des abris aux auxiliaires de culture pour une agriculture plus durable.
Donc pour essayer donc de pallier à cette diminution des haies.
Nora Abo, en charge du projet Braise Bocage à l'EPAGA.
En 2007, il y a le programme Braise Bocage qui a été mis en place. Donc c'est un programme qui vise à la reconstruction et à la restauration des haies bocagères sur l'ensemble du territoire breton. Il consiste à travailler en fait avec les agriculteurs pour proposer des projets bocagers pour vraiment reconstituer les bocagères dans les parcelles agricoles. Nous, sur le territoire, on a commencé à travailler avec le programme Braise Bocage à partir de 2014. Il y a à peu près 30 km de haies sur talus qui ont été reconstituées. Donc nous, notre objectif principal, c'est vraiment de reconstituer des talus dans le sens inverse de la pente pour vraiment ralentir les écoulements, comme on a un rôle dans la gestion de l'eau. On veut vraiment jouer sur ce paramètre-là et travailler sur cet aspect-là avec les agriculteurs. Donc voilà. Et on a aussi mis en place en fait, une stratégie à l'échelle du territoire pour prioriser les zones qui vont être les plus importantes à restaurer où on va restaurer les haies bocagères. Donc en fait, on a croisé plusieurs paramètres, donc notamment la pente qu'il y a sur le territoire, la densité bocagère déjà existante, la connectivité des haies entre elles, et aussi l'occupation des sols. Plus on va avoir en fait des haies, des communes avec des prairies permanentes, mieux ça va être en fait pour l'intégration des haies. C'est vrai que le bocage il a beaucoup de rôles en fait. En Bretagne, on parle beaucoup des haies sur talus et donc de la limitation du risque érosif. Mais le bocage, il était historiquement utilisé avec les agriculteurs pour faire un rôle de brise-vent. Ça va permettre pour le bétail qui s'abrite par exemple derrière les arbres et qui du coup il soit vraiment protégé. Et sinon pour les cultures, ça va faire vraiment un effet brise-vent et ça va faire un microclimat autour de la haie et du coup la culture aura un meilleur rendement par la suite. Et pourtant dans la biodiversité. Que ça soit sur les différentes strates de la haie, parce que la haie du coup il faut prendre le premier étage, ça va être les herbes, les espaces herbacés, ensuite il y a les arbustes et ensuite il y a les arbres, et du coup ça va faire plein de différentes habitats pour différents animaux, que ce soit des oiseaux, des mammifères, des insectes. Ça va être un lieu de reproduction, de refuge.
Enfin, développer de nouveaux usages ou réhabiliter des anciens peut soutenir un développement durable du territoire compatible avec la transition écologique et la sobriété énergétique. Ainsi, réhabiliter la production d'énergie ou le transport commercial pourrait permettre de faire du fleuve un atout pour un fonctionnement du territoire plus sobre en énergie. Cette utilisation nouvelle aura pour effet collatéral une meilleure connaissance du fleuve et donc une meilleure préparation aux inondations. Tristan Botcazou de l'association La Fée de l'Aune et Yannick Daniel de l'association Les Navigantes nous parlent de leurs projets respectifs sur l'Aune.
On sait qu'il y a un potentiel de fou, quoi.
Tristan Botcazou.
Voilà, c'est-à-dire que même, voilà, on est parti sur d'ici à Brest, mais il y aurait sûrement des choses à faire d'ici à. D'ailleurs, on avait participé à la construction du Steravel, il y a une gabarre au Sablé de la Loire qui a été construite en 2017. Et nous, on s'est impliqué dans ce projet. On n'a jamais pensé à concurrence. On s'est dit non, il y a complémentarité, il y a synergie. Et on s'est dit non, on va remonter du monde et on va permettre aussi aux gens qui vont débarquer de pouvoir monter dans une gabarre et de monter 3 ou 4 écluses. Et après, ils vont partir en vélo, ils vont repartir. Et on avait encore un autre projet qui était en fait les gens arrivaient en vélo jusqu'ici. Et nous, on a fait des repérages de l'autre côté donc de l'Aulne, donc rive gauche, en face du Quiliglas. Et on a trouvé un chemin de randonnée et cycliste, carrossable, on va dire, jusqu'à l'Andévennec. Et donc cette gabarre aussi, cette petite gabarre de la Loire, a très bien pu, 2 fois ou 3 fois par jour, embarquer des vélos, les faire traverser rive gauche et les envoyer sur... voilà. On essaie de repartir avec ces bateaux qui sont des bateaux de transport pour faire du transport de marchandises à la voile. On, On imagine que Brest serait peut-être le meilleur endroit pour décharger les marchandises, mais il n'est pas dit qu'on ne pourrait peut-être pas utiliser aussi Châteaulin, comme on le disait tout à l'heure, stratégiquement bien placé pour sa capacité à pénétrer dans à peu près tous les endroits. On est à quoi ? Une demi-heure de Quimper, une demi-heure de Carré, une demi-heure de Brest, pour justement décharger des marchandises, on va dire, à haute valeur ajoutée, hein, comme le vin ou le whisky, ou tout un tas de choses qui peuvent intéresser. Voilà. Donc je sais pas, on est en train de monter le projet, donc de complètement changer de perspective. En plus, ces bateaux ont été vraiment faits pour aller au plus près des marchandises, aussi bien dans le chargement que dans le déchargement. C'est des bateaux, par exemple, qui étaient capables d'aller à l'île de Sein pour la fête de l'Aulne avec 100 tonnes de sable et d'échouer avec 100 tonnes de marchandises à bord. Donc, on imagine la robustesse de ces bateaux. Donc, voilà, repartir sur cette capacité à aller très près d'une distillerie, par exemple en Écosse, et de pouvoir revenir très près d'un centre Leclerc ou d'une zone de distribution, tout ça à la voile, quoi.
Après, j'avais un peu de temps et je me dis, tiens, je vais faire un état des lieux de la Bretagne fluviale.
Yannick Daniel.
Avec un inventaire, avec en objectif secondaire, trouver une petite péniche bretonne, la ramener et la remettre à l'eau. Voilà, c'est 2008, c'est beaucoup de papier. Du coup, je sillonne la Bretagne de Nantes à Saint-Malo, en passant par toute la Bretagne, quoi, l'Orient, le Blavet, tous les canaux. Et à ce moment-là, je rencontre la région Bretagne qui me dit « Mais c'est vachement bien ce que vous avez fait, M. Daniel, parce que vous avez dressé un inventaire et on n'a pas. » Et moi, je dis « Mais je dresse un inventaire parce que d'abord, je trouve que c'est sous-exploité, qui a un potentiel de développement touristique assez dingue à faire. Et c'est au moment où la région Bretagne initie la régionalisation de la voie d'eau. C'est-à-dire que jusque-là, les différents canaux étaient gérés par les départements, plus ou moins, avec plus ou moins de budget. Et la région Bretagne cherche à développer sa deuxième économie, qui est le tourisme, et dit « Le littoral est complètement équipé, on ne pourra pas faire plus, et on va essayer de gagner des parts de marché dans le tourisme fluvial. » Donc ça, c'est réflexion, valorisation de la voie d'eau. Donc ça, c'est des documents que j'ai imprimés et que j'ai diffusés auprès des politiques, la région, les conseils départementaux. Et la région Bretagne m'a dit « Mais écoutez, vous êtes dans le Finistère, il est possible qu'un jour, la région Bretagne prenne la gestion du Finistère, et ça nous intéresserait si vous pouvez faire un focus un peu plus détaillé sur le Finistère, potentiel et potentialité, patati patata. » Donc j'ai pris ma bicyclette et j'ai fait le canal de Nantes à Brest dans le Finistère en vélo, en bagnole et aussi un peu en bateau pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et j'ai présenté ce dossier à Pierre Maille, qui était le président du conseil départemental du Finistère, en lui disant « Écoutez, c'est pas compliqué, c'est une voie d'eau magnifique, 90 km, 45 écluses, il n'y a plus aucune navigation, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est un carnage. » Et ma marotte était de dire « Si on veut sauver le canal, il faut absolument ramener l'outil identifiant, et l'outil identifiant, c'est la péniche bretonne, en l'occurrence la péniche bretonne. » Voilà. Donc je me suis un peu bougé pour trouver une péniche bretonne que j'ai trouvée à Roscoff et je l'ai ramenée en bordure du canal et de ce fait à Port-Launay. Voilà, pour mettre en chantier, parce qu'il y avait pas mal de boulot à faire dessus, mettre en chantier, continuer à rencontrer les élus et dire voilà, on va naviguer sur le canal parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire la promotion et il n'y a plus de navigation, c'est assez... Bon, je comprends pas. Et j'ai quelques copains, dont un ami notamment, qui m'a dit « Écoute, t'es tout seul, on va monter une association avec une équipe de bons copains et de copines, et on va développer le truc et on va t'aider. » Donc, et ça, c'est la création de l'association des navigantes. Donc ça, c'est 2016. Voilà. Et les navigantes, la vocation des navigantes, tu as eu la bâche, c'est effectivement ramener l'outil identifiant, faire la promotion du canal, pour le compte du département, dans un premier temps, de faire un état des lieux technique, vraiment technique, en disant bon, si la péniche passe, tous les autres bateaux peuvent passer, et avec tout un tas de gags, parce qu'il y a de l'envasement, il y a des ports d'écluse qui ne marchent pas, mais on a fait un rapport très détaillé avec des techniciens sur ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut faire en jamant. Voilà, donc ça c'est 2017, et 2017 on crée un événement on crée un raid fluvial. Donc ça, c'est la première route de l'Ardoise. La route de l'Ardoise, c'est la Patricia devant, une quinzaine de petits bateaux fluviaux, et on décide sur deux jours d'aller à Pont-Coblanc. Alors Pont-Coblanc, c'est plébin, c'est 10 écluses, donc là, c'est 5 écluses par jour. On y va tranquille, on passe 5 écluses, voilà. Et du coup, route de l'Ardoise première remontée 2017, et la Patricia, elle continue jusqu'à Carhaix. Voilà, et donc c'était la première fois depuis, je sais pas, 50 ans, 60 ans, qu'une péniche bretonne arrivait. En l'occurrence, on est arrivé, pas sans difficulté, mais on est arrivé à Carhaix. Et apparaît une couverture presse chouette, les médias, la sensibilité, la sensibilisation, tout ça c'est parti, voilà, voilà. Et on close, on s'aperçoit qu'il y a un gisement de bois extraordinaire sur le contre-halage. Alors le contre-halage, le halage, on peut venir avec des camions, des engins, ça va. Le contre-halage, c'est en face, ce sont des zones humides et il y a plein de bois partout. Donc on ne peut pas intervenir avec des gros camions, des 4x4, des tracteurs. Donc il faut trouver une manière de valoriser ce bois, de le transporter, de le transporter, etc., etc., de manière un peu light. Et on revient là à l'agenda 21. Et le 4 octobre, là, cette fois-ci, là, c'est donc le 4 octobre, on va, pour le compte de la région Bretagne, faire notre premier chargement de bois qui a été coupé, qui est sur le halage. Et donc, la suite de ça, c'est, oui, on va faire du transport fluvial en Bretagne. On va refaire du transport fluvial en Bretagne. Sur le bois, on a une filière bois-énergie, voilà, pour... la région, c'est pas mal, parce que la région, ils disent, c'est le bois du canal. Donc le bois du canal, avant, si on coupe tout, on fait des copeaux, on laisse pourrir dans les talus. Maintenant, la politique de la région par rapport à ça, c'est si on a du frêne, des grumes qui sont assez jolis, plutôt que les broyer ou le faire du bois de chauffage, on les valorise, on les met en bille, on les met en plateau, et on s'en sert pour qui refaire les bancs ou les volets des maisons d'éclusiers. Voilà. Mais... sur tout ce qui est inférieur à 20 cm ou 15 cm de diamètre, qui sont du bois qu'on peut difficilement exploiter, là, il y a la volonté de développer une filière plaquette, donc du broyage, et de se rapprocher des collectivités locales qui doivent chauffer, qui une piscine, qui un des logements sociaux, voilà. Donc, il y a 20 ans, on n'en parlait pas parce que dans une péniche bretonne, on met 10 camions, voilà, bon. 10 camions, il y a la rupture de charge, donc les gars ont dit bon, on arrête les péniches, on fait tout ça en camion, et puis ça roule. Bon, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes de consommation, un camion, c'est 30-40 litres à l'heure pour 12 tonnes, 13 tonnes de charge, grosso modo. En péniche, on ne va pas à 80 km/h, mais quand on a consommé 20 litres pour 50-60 tonnes, c'est le maximum. Donc, il n'est pas question de livrer du camembert, mais il est question de au niveau rentabilité, au niveau écologique, c'est formidable. Même si ce sont des moteurs diesel, Patricia, elle pèse 45 tonnes, j'ai un moteur de 1954 et je consomme 5-6 litres de gasoil par heure. C'est peanuts.
Depuis notre échange avec Yannick Daniel, l'expérimentation du transport de bois de berge a été concluante et 175 mètres cubes de bois ont été récupérés et transportés en 3 jours par une péniche. Les navigantes continuent d'explorer la possibilité de créer une filière de bois labellisée à exploiter en circuit court par des artisans locaux. Les navigantes ont également mené une étude sur la mise en place d'une mini-centrale hydroélectrique sur le fleuve. Ce projet-là est en pause pour des questions de continuité écologique et de préservation des espèces de poissons. Affaire à suivre donc. Beaucoup d'autres activités peuvent être imaginées. Et vous, comment rêvez-vous que le fleuve soit utilisé d'ici 10 ans? À quoi ressemblerait la vallée de l'Aune en 2040 dans un territoire qui consomme peu d'énergie? Comment s'adapter au changement climatique? Comment l'Aune peut-il fédérer les projets du territoire? La suite du projet BRIC nous permettra d'explorer ces questions. Si vous habitez la vallée de l'Aune et que vous souhaitez être tenu au courant de la suite, écrivez-nous à bric@serema.fr. L'adresse se trouve dans la description de l'épisode. À bientôt! Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet BRIC, porté par le CEREMA et 7 autres partenaires. Il est soutenu par l'Union européenne et financé par le biais du Fonds européen de développement régional. Il se déroule dans 8 territoires, en France et en Angleterre. la vallée de l'Aune, la vallée de la Risle, la vallée de l'Oise et la vallée de l'Authy en France, la ville de Plymouth, l'île de Canvey, la ville de Weymouth et le comté du Kent en Angleterre.